Alors ensuite, un petit peu plus loin, on raconte l'histoire du serpent d'airain. Ils partirent dehors la montagne par la route de la mer de Souf. La mer de Souf, c'est la mer rouge. Pour contourner le pays des Dômes. En chemin, le peuple perdit patience. Il parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous monté d'Égypte pour mourir en ce désert? Bon, je crois que de tous les déserts, c'est le plus terrible qu'on a traversé, c'est celui de ce matin. On comprend qu'ils en aient eu marre. Il n'y a pas de pain et pas d'eau. On en a marre de cette nourriture de famine. Dieu envoya contre le peuple des serpents brûlants, dont la morsure fit périr beaucoup de monde en Israël. Le peuple vint dire à Moïse, nous avons péché en parlant contre Dieu. Intercède auprès de Dieu pour qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse intercéda et Dieu lui répondit, façonne-toi un brûlant que tu placeras sur un étendard. Quiconque aura été mordu et le regardera restera en vie. Moïse façonna donc un serpent d'airain, Nahash, une rochette, oui, il y a un jeu de mots là, Nahash, c'est le serpent, et ça indique toute la divination aussi, encore en hébreu moderne, le Nahash, c'est deviner, faire de la divination, et une rochette, c'est l'airain, qu'il plaça sur l'étendard. Et si un homme était mordu par quelques serpents, il regardait le serpent d'airain et restait en vie. Les Israélites partirent et campèrent à Oboth. Tenez, ici tout près, il y a des fouilles archéologiques, et voyez-vous, on fouille, c'est pas par hasard qu'on a appelé cet endroit Oboth, parce que ça correspond assez aux données topographiques. Puis ils partirent d'Oboth et campèrent à Iyabarim, dans le désert qui confine à Moab du côté du soleil couchant. Ils partirent de là et campèrent dans le torrent de Zered. Ils partirent de là et campèrent au-delà de l'Arnon. Alors voyez, ça, notre itinéraire est remarqué, encore une fois, comme par le guide Michelin pour cet après-midi. Mais alors, revenons à ce thème du serpent d'airain. Vous avez ici, alors, l'allusion, je ne relis pas ce que j'ai lu ce matin, rappelez l'entretien avec Nicodème, c'est une renaît de l'eau et de l'esprit, et puis le serpent d'airain qui revient à la mémoire de Jésus dans la renaissance par l'eau et par l'esprit. Et pour la désirer, il faut qu'on descende au plus profond de nous-mêmes. Tenez, j'avais vu cet arbre ici.
C'est un arbre assez gigantesque, enfin, qui a des branches tout à fait curieuses, qui retombent sur le sol, et qui, une fois qu'elles sont retombées sur le sol, reprennent racine et redonnent des pousses neuves.
Alors le nom est retenu, Sisyphus Pina Christi. Mais alors, le symbolisme de l'arbre. Le royaume de Dieu est comparé à un arbre qui pousse à la fois ses branches et ses racines. Enfin, on parlait de Nicodème, on parlait de ce clivage entre l'option juive et l'option chrétienne. Demain, on va passer de l'Ancien au Nouveau Testament. Et vous savez que l'Église, lisez les derniers textes conciliaires du magistère, considère ce problème comme un problème inhérent à la théologie de l'Église. Ce n'est pas un problème secondaire, c'est un problème accessoire, c'est un problème inhérent au mystère même de l'Église. Et le texte de base que les chrétiens devraient connaître et qu'ils ignorent souvent, et qui reprend le symbolisme de l'arbre, c'est saint Paul qui le donne dans l'Épître aux Romains. Ce drame, je dis la vérité dans le Christ, je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'éprouve une grande tristesse et une douleur incessante en mon cœur, car je souhaiterais d'être moi-même anathème, séparé du Christ pour mes frères, ceux de ma race selon la chair, eux qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption filiale, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses et aussi les patriarches, et de qui le Christ est issu selon la chair, lequel est au-dessus de tout. Dieu béni éternellement. Amen. Alors Dieu serait-il infidèle? Il n'est pas question de l'homme qui veut ou qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Je demande donc, serait-ce pour une vraie chute qu'ils ont bronché cette coupure? Certes non, mais leur faux pas a procuré le salut aux païens, afin que leur propre jalousie en fût excisée. Qu'est-ce que les chrétiens font pour que les juifs soient jaloux? On se demande qu'ils font ça à Jérusalem, là, dans le bric-à-brac de certains lieux saints. Et si leur faux pas a fait la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, que ne fera pas leur totalité? Un mot mystérieux. Interrogez les professeurs. Moi, je vous donne des questions à poser à des gens plus compétents que moi. Or, je vous le dis à vous les païens. Je suis bien l'apôtre des païens et je nomme mon ministère, mais c'est avec l'espoir d'exciter la jalousie de ceux de mon sang et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart fut une réconciliation pour le monde, que sera leur admission sinon une résurrection entre les morts? Pour qui? Pour eux ou pour nous? Alors ici, l'arbre, c'est l'olivier, mais enfin, c'est toujours l'histoire des racines et des branches. Si les prémices sont saintes, toute la pâte aussi. Et si la racine est sainte, les branches aussi. Et si quelques-unes des branches ont été coupées, tandis que toi, sauvageon d'olivier, tu as été greffé parmi elles pour bénéficier avec elles de la sève de l'olivier, ne va pas te glorifier aux dépens des branches. Ou si tu veux te glorifier, ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. Tu diras, on a coupé des branches pour que moi je fusse greffé, fort bien. Elles ont été coupées pour leur incrédulité, et c'est la foi qui te fait tenir. Ne t'enorgueillis pas, crains plutôt. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, prends garde qu'il ne t'épargne pas davantage. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et envers toi bonté, pourvu que tu demeures en cette bonté. Autrement, tu seras retranché toi aussi. Et eux, s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Dieu est bien assez puissant pour les greffer à nouveau. Si toi, qui étais retranché de l'olivier sauvage du paganisme auquel tu appartenais par nature, et greffé contre ta nature sur un olivier franc, celui du judaïsme, combien plus eux, les branches naturelles, seront-ils greffés sur leur propre olivier? Je ne veux pas, frère, vous laisser ignorer ce mystère. Oh, nous sommes ici devant un mystère où la pensée de Dieu est engagée en ce qu'elle est plus subtile, sa sagesse. Et il ne faut pas la rabaisser au niveau de nos options politiques, ce que nous amène à penser les symbioses des milieux auxquels nous appartenons. Il s'agit d'élargir notre esprit aux dimensions d'un mystère, encore une fois, où la sagesse divine est engagée en ce qu'elle est plus subtile. Une partie d'Israël s'est endurcie jusqu'à ce que soit entrée la totalité des païens. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Ennemi, il est vrai, selon l'évangile, à cause de vous, ils sont, selon l'élection, chéris à cause de leur père. Tout à l'heure, on lira l'histoire de Balaam. Et je crois que saint Paul, lorsqu'il dit que les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance, c'est une allusion à ces formules qu'on trouve tout à l'heure en lisant l'histoire de Balaam, qui formule le messianisme royal et puis le caractère imprescriptible de l'élection. De même que jadis vous avez désobéi à Dieu et qu'au temps présent vous avez obtenu miséricorde grâce à leur désobéissance, eux de même au temps présent ont désobéi grâce à la miséricorde exercée envers vous, afin qu'eux aussi ils obtiennent au temps présent miséricorde. Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire à tous miséricorde. Au abîme de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses décrets sont insondables et ses voies incompréhensibles. Qui en effet a jamais connu la pensée du Seigneur? Qui en fut jamais le conseiller? Ou bien qui l'a prévu de ses dons pour devoir être payé de retour? Car tout est de lui et par lui et pour lui, à lui soit la gloire éternellement. Amen. Oui, ça nous invite à élargir notre intelligence aux dimensions du mystère. Alors cet arbre, les branches et les racines. Et ici, encore une fois, quelles que soient les options politiques qu'on ait, l'existence de ce peuple revenu dans sa terre permet au christianisme de retrouver la sève à la racine, pas pour une meilleure prise de possession de son identité chrétienne. C'est très étrange cette histoire-là.
Alors on est ici dans un lieu qui est étrange en lui-même. Alors c'est un kibbutz, et à l'entrée il y a une pancarte où il y a cette inscription, je crois, Yeshua Meshiach, Amorchaye.
Mechaye
Tametim.
Yeshua Meshiach, Mechaye Tametim, c'est très curieux. C'est un phénomène marginal, ça illustre tout à fait ce qu'on disait hier. Il y a l'esprit qui est à l'origine de l'institution, et puis alors l'esprit qui agit à l'extérieur de l'institution. Et alors ça, c'est insaisissable. Mais il y a des juifs messianiques. Alors ici, vous en avez vu à l'entrée.
C'est ça, parce qu'on n'a pas donné la traduction de cette inscription.
Jésus, le Messie, qui ressuscite les morts. Ça fait allusion à la prière juive, Mechaye Tametim, Baruch Ata Adonai Eloheinu, Melech Olam, Mechaye Tametim. Ce sont des juifs religieux. Vous avez vu à l'entrée, il y a les papillotes et puis le chapeau. J'ai eu l'occasion un jour d'aller un petit peu plus loin, ils ont leur synagogue. Et un petit peu plus loin, ils ont leur bain rituel. Et ils vivent ici. Je ne suis pas le placé pour en parler, je les connais mal. Mais c'est quand même étrange. Moi, je m'arrête ici pour voir cet arbre. Et puis, alors qu'on va descendre dans ce paysage le plus sinistre de la planète, qui évoque vraiment les ossements desséchés d'Ézéchiel, s'il y a un rapport entre les textes et le paysage, je trouve que c'est ici. Alors, ces ossements desséchés d'Ézéchiel, tenez, lisons quelques passages. C'est toujours dans la ligne fondamentale de cette journée, la régénération par l'eau et par l'esprit. Ézéchiel, contemporain de Jérémie à peu près, prédit lui aussi une nouvelle alliance qui sera vraiment qu'une nouvelle création. Et alors il prend, d'abord il reprend un langage tout à fait comme celui de Jérémie, vous rappelez, je vous donnerai un cœur nouveau, etc. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. faut. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous, ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous observiez, pratiquiez mes coutumes. Alors vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Et alors c'est dans ce contexte-là qu'il y a au chapitre 37 la vision des ossements desséchés. La main de Dieu fut sur moi. Il m'emmena par l'Esprit de Dieu et me déposa au milieu de la vallée, une vallée pleine d'ossements. Le paysage est extraordinaire. C'est là qu'il faut lire le texte. Je le lis maintenant parce que dans la Bible c'est pas commode. Il me la fit parcourir parmi eux en tous sens. Or les ossements étaient très nombreux sur le sol de la vallée et étaient complètement desséchés. Il me dit, fils d'homme, ces ossements vivront-ils? Je dis, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Voici que je vais faire entrer en vous l'esprit, et vous vivrez, le souffle, l'esprit. Vous rappelez comment Dieu a créé l'homme? Il a pris de la poussière du sol, il l'a modelé, et puis il a soufflé dans ses narines un souffle de vie, et l'homme est devenu un être vivant. Et c'est une recréation, ici c'est la même iconographie qui est reprise. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je tendrai sur vous de la peau, je vous donnerai un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis le Seigneur. Comme vous saurez que je suis le Seigneur quand je fais des merveilles. Comme ça qu'on apprend qui est Dieu. Il crée, il recrée, il fait des prodiges. Il n'y a rien d'étonnant pour lui, de trop étonnant pour Dieu. Aïe, palais, madonnaï, d'avar. N'y a-t-il rien de trop étonnant pour Dieu? Je prophétisais donc comme j'en avais reçu l'ordre. Il se fit un bruit au moment où je prophétisais. Il y eut un frémissement et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je regardais. Ils étaient recouverts de nerfs. La chair avait poussé et la peau s'était tendue par-dessus, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils d'homme, tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu, viens des quatre vents, esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Je prophétisais comme il m'en avait donné l'ordre. L'esprit vint en eux. Ils reprirent vie et se mirent debout sur leurs pieds, grande, immense armée. Alors il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Les voilà qui disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, c'en est fait de nous. C'est pourquoi prophétise. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que j'ouvre vos tombeaux. Je vais vous faire remonter de vos tombeaux, mon peuple, et je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur lorsque j'ouvrirai vos tombeaux, et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, et je vous installerai sur votre sol, et vous saurez que moi, Dieu, j'ai parlé et je fais. Oracle de Dieu. Dieu qui parle et cela est, c'est le langage de la création. Vous voyez, une nouvelle création. Une régénération par l'eau et par l'esprit qui ne sera rien moins qu'une nouvelle création. Et c'est en ça que consiste la nouvelle alliance. C'est pas une autre alliance. C'est Dieu qui reste fidèle à son unique alliance, mais qui la renouvelle. Qui fait une nouvelle création. C'est très mystérieux tout ça, hein. C'est très très mystérieux. Mais en même temps, il y a une puissance d'évocation, je ne sais pas si vous sentez de plus en plus, et vous allez voir au fur et à mesure qu'on va progresser, le lien entre la parole de Dieu et cette terre va apparaître de plus en plus. Et j'ai l'impression que plus l'arbre pousse, plus il doit pousser ses racines dans le tuf originel de cette terre, de cette langue. Plus il s'étend à travers le monde, plus il doit se planter profondément dans cette terre originelle, dans cette langue. Oui, même dans la géographie, c'est la géographie qui parle, c'est étonnant. Au commencement, au plus profond. Et en Galilée, ça sera encore plus parlant. Et Jérusalem, alors là, quand vous aurez un peu soupçonné le mystère, encore une fois, je répète toujours la même chose, vous en partirez sans pouvoir la quitter. Bon, nous sommes ici sur un point de vue qui domine admirablement la région la plus basse, la plus sinistre, la plus pécheresse du globe, la région de Sodome et Gomorre. Ne demandez pas où sont Sodome et Gomorre, j'en sais rien. Ce qu'on appelle la montagne de Sodome, oui, cette croupe très nettement distincte de la falaise calcaire là, dont nous nous éloignons et qui est formée. Alors je vous expliquerai ça si ça vous intéresse du point de vue géologique. D'ailleurs, on ira dans une grotte qui vous fera comprendre la formation géologique de cette montagne de Sodome là-bas. On voit la fumée de grosses usines d'exploitation de potasse, de sel de la mer morte. Alors de l'autre côté, on voit juste en face la frontière entre Moab et puis Édom. Édom au sud et Moab au nord, et la frontière c'est le Nahal Zered dont on parle dans les textes que nous lisions tout à l'heure. En passant des horizons là en face de Édom aux horizons de Moab. Ça vaut la peine d'évoquer ces récits là. Ce qui caractérise la région dans la Bible, il y a un mot qui revient toujours. Quand on parle de Sodome, Sodome en hébreu, on parle de Ma'aperat Sodome. Hein. Ma'apera, le FR, tu sais ce que ça veut dire en hébreu, le FR, le contraire, hein, le retournement. Il y a, on dirait que le monde ici, c'est comme révulsé. Enfin, il y a une solidarité entre le cosmos et puis l'homme. Adam et Adama en hébreu, c'est toujours le thème qu'on trouve un peu partout dans toutes les cultures du microcosme et du macrocosme. Et alors, cette solidarité fait que quand le comportement moral de l'homme devient aberrant, eh bien, l'univers orchestre cela et se révulse ici. On a une image, Ma'aperat Sodome. Et quand on parle de la perversion de Sodome, c'est pas seulement la sodomie, c'est quand on voit certains textes d'Ézéchiel aussi, le luxe égoïste, par le mépris des autres, des pauvres, l'insouciance, tout cela. C'est enfin la région la plus basse, la plus sinistre du globe. Vous connaissez dans la Genèse, là, Abraham et Lot sont à Bethel, dans la montagne de Samarie, là-bas, d'où on aperçoit, quand il fait clair, là, la dépression du Jourdain et la région de la mer Morte. Et alors, ils reviennent d'Égypte. Et il y a eu une histoire en Égypte, vous vous rappelez, Abraham qui a fait passer sa femme pour sa sœur, et puis le roi d'Égypte pour réparer le comble de bien. Et alors ils reviennent avec toutes les richesses d'Égypte, comme le peuple quelques siècles plus tard le fera, et ils retournent en Terre Sainte, ils font les mêmes étapes, ils arrivent à Bethel, et là, c'est cette phrase étrange, ils avaient de trop grands biens pour pouvoir vivre ensemble. Et c'est curieux ça, dans la Bible on se rend compte que l'amélioration du standing, comme on dit maintenant, n'améliore pas, ne résout pas tous les problèmes de la condition humaine, et même que quelquefois plus on est riche, plus on est égoïste et plus on se recroqueville sur soi-même, ça arrive. Alors ils décident de séparer. Abraham magnanime dit, écoute, on va pas se disputer, on est des frères, si tu vas à droite j'irai à gauche, si tu vas à gauche j'irai à droite. Alors de Bethel, Lot, voyant cette région là, descend s'installer dans la région de cette dépression là, qui était paradisiaque comme l'Égypte, tandis qu'Abraham alors continue et va s'installer à Mambré, sur la route des patriarches là-bas. Et il y a toute une série de récits qui se situent entre Mambré et puis Sodome et Gomorre que nous voyons. Tout ça est important, vous allez voir, nous ramassons des tas d'éléments qui vont ensuite nous apparaître très importants dans la relecture du prologue de Matthieu, sur l'origine des Moabites et tout cela. Ruth, vous rappelez où je veux en venir, l'histoire de Ruth. Bon, l'histoire de Sodome et Gomorre, vous la connaissez tellement. Abraham a reçu l'annonciation de la naissance d'Isaac. Y a-t-il rien de trop merveilleux pour Dieu? Et les trois personnages mystérieux là, à qui il a donné l'hospitalité aux chênes de Mambré, font part à Abraham du châtiment qui va s'abattre sur Sodome. Le cri contre Sodome et Gomorre, dit Dieu, est bien grand, leur péché est bien grave. Et alors les hommes mystérieux vont à Sodome, et alors il y a cette extraordinaire intercession d'Abraham. Tenez, si on veut apprendre à prier là. Alors les trois personnages mystérieux à qui Abraham a offert l'hospitalité lui font part, après l'annonciation de la naissance d'Isaac, du dessein qu'ils ont de faire périr Sodome et Gomorre à cause de leur iniquité. Et Abraham, se souvenant que son neveu Lot est là-bas à Sodome et Gomorre, intercède. Et si on veut apprendre à prier, tenez, on a encore un spécimen de cette lutte contre Dieu où on triomphe avec Dieu. Écoutez ça. Abraham s'approcha et dit, vas-tu vraiment supprimer le juste avec le pécheur? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les supprimer? Et ne pardonneras-tu pas à la cité pour les 50 justes qui sont dans son sein? Loin de toi de faire cette chose-là, de faire mourir le juste avec le pécheur, en sorte que le juste soit traité comme le pécheur. Loin de toi. Est-ce que le juge de toute la terre ne rendra pas justice? Le Seigneur répondit, si je trouve à Sodome 50 justes dans la ville, je pardonnerai à toute la cité à cause d'eux. Abraham reprit, je suis bien hardi de parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre, mais peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Feras-tu pour 5 périr toute la ville? Sentez comme c'est astucieux. Hein? Alors le bon Dieu n'a pas de machine à calculer. Il répondit, il s'y retrouve quand même, non, si j'y trouve 45, il fait la soustraction. Abraham reprit encore la parole et dit, peut-être n'y en aura-t-il que 40? Il répondit, je ne le ferai pas à cause des 40. Alors Abraham sent qu'il tient le bon bout, il continue. Abraham dit, que mon Seigneur ne s'irrite pas, que je puisse parler, peut-être sont trouvera-t-il 30 ? Il répondit, je ne le ferai pas si j'en trouve 30. Il dit, je suis bien hardi de parler à mon Seigneur, peut-être en trouvera-t-il 20 ? Il répondit, je ne détruirai pas à cause des 20. Il dit, que mon Seigneur ne s'irrite pas, je parlerai une dernière fois, peut-être en trouvera-t-il 10 ? Il répondit, je ne détruirai pas à cause des 10. Vous savez que dans la tradition juive, il faut être 10 pour que la prière soit valide, le minyan, oui. Mais ça continue cette histoire-là. S'il y a 10 justes, bon. Mais au temps de Jérémie, lorsque Jérusalem est assiégée, là, Dieu dit au prophète, si je trouve un seul juste, je ne détruirai pas la ville. Et dans le psaume, je ne sais plus quel numéro, le numéro 15, je pense, Dieu regarde par la fenêtre, là-bas en haut, Ishkif al-Bene Adam, Mishamaï, je ne sais plus en français comment. Et alors, Dieu du ciel, il regarde par la fenêtre, pour voir s'il y a un seul juste, Maskil. Maskil, ça veut dire un type intelligent qui a du cerveau. Doresh et Elohim. Dans la Bible, l'homme intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. Et il n'y en a pas un seul. Tout le monde est distrait. Il n'y en a pas un seul. Saint Paul cite ça souvent dans l'Épître aux Romains. Et vous savez, ça va très loin ici. Dans la Bible, les petits récits microscopiques, ça donne des aperçus sur la sagesse de Dieu. Et ici, je ne peux pas ne pas évoquer quelque chose qui m'a beaucoup frappé. D'un professeur protestant suisse qui s'appelle Kuhlmann, tu as dû lire ça. Christus und die Zeit, le Christ et le temps. Et alors, il montre que l'histoire sainte a un mouvement analogue à celui du cœur dans l'être vivant. Il y a la systole et la diastole. Une sorte de contraction, puis ensuite de dilatation. Alors le monde, au lieu de converger vers Dieu, retourne vers le chaos, la multiplicité du chaos. On a vu comment, de cette multiplicité, là, Dieu remettait en route le monde dans la personne d'Abraham et de sa postérité. Et alors, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, cette postérité d'Abraham se concentre. Il y a les 12 tribus, et puis ensuite l'attention se concentre sur une seule tribu, la tribu de Juda qui reste toute seule, et puis la tribu de Juda est emmenée en captivité à Babylone, elle en revient, il y a un reste qui revient, et puis on aboutit dans la Bible, à une époque encore ultérieure, à un mystérieux personnage dont il est très difficile de dire si c'est une collectivité ou une personne. On a dû inventer un mot pour exprimer ça, une personnalité incorporante. Et le serviteur, le fils de l'homme. Et pour nous chrétiens, apparaît alors au centre, au terme de ce mouvement de contraction, le Christ. Cette unité, ici c'est pas le professeur Kuhlmann qui parle, moi j'ai brodé un peu là-dessus en fonction de ma foi catholique. Et des grands conciles qui ont défendu contre tous les assauts de la raison humaine, là, ce paradoxe, la formidable unité de nature humaine, nature divine, dans la personne du Christ qui apparaît à la plénitude des temps. Et alors ça continue, le Christ est de plus en plus seul, incompris non seulement de ses contradicteurs, de plus ou moins bonne foi, mais incompris aussi de sa famille, qui vient le chercher à Capharnaüm en le poursuivant comme s'il était fou, incompris de ses apôtres, qui n'y comprennent rien, qui sont qui fiche le camp lorsque ça va très mal et que le Christ est crucifié, sauf Saint Jean. Et il est complètement seul lorsque, élevé entre le ciel et la terre, il rend l'esprit. Lorsque, après sa résurrection, alors se déclenche une prédication. Et ceux qui répondent par la foi à la proclamation, parce que Jésus qui a été crucifié, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins, s'incorporent à la personne du Christ. Et par le baptême, s'incorporent. Et le Christ répandu et communiqué. Comment cette récapitulation dans l'unité posée au centre? Nous sommes dans cette étape-là actuellement. Il y a une grande récapitulation du monde dans l'unité qui a été posée par Dieu au centre. Et je crois qu'il résume ça le professeur Kuhlmann, pourtant je me rappelle, ce sont des souvenirs lointains, le temps où je faisais des fiches. Maintenant je digère tout ce que j'ai amassé autrefois. Il dit que domine le déroulement de l'histoire sainte, le principe de l'élection d'une minorité pour la rédemption de l'ensemble. Et plus cette minorité substitutive se restreint, se concentre, plus son pouvoir représentatif devient grand. Et lorsqu'elle atteint son maximum de concentration dans la solitude messianique du Christ élevé en croix, alors cette puissance de récapitulation se déploie au maximum. Et elle est capable de ressusciter le monde entier. Alors ici, devant ce paysage, il y a un texte qui demande à être lu. C'est le texte. C'est étonnant. D'abord, ce monde qui se renverse, Sodome et Gomorre. Vous lirez le récit du drame de Sodome et Gomorre dans Osée. Vous savez que dans la Bible, Sodome et Gomorre, et qu'est-ce qu'il y a encore, Adma et Séboïm, c'est la même chose. Souvent, ils sont nommés ensemble. Ils sont nommés ensemble. C'est la même région que nous contemplons maintenant. Alors, on a de la chance aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de brume, c'est parfait. Et alors, dans Osée, c'est le cœur de Dieu qui se renverse quand les hommes créent des Sodome et Gomorre, par la perversion de leur comportement moral. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et d'Égypte, j'appelais mon fils. J'ai appris à marcher à Éphraïm. Je le prenais par les bras. Ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. Je les menais avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. J'étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson tout contre leur joue. Mais mon peuple s'est cramponné à son infidélité. On les appelle en haut, pas un qui se relève. Comment t'abandonnerai-je, Éphraïm ? Te livrerai-je, Israël ? Comment te traiterai-je comme Adma ? Te rendrai-je semblable à Séboïm ? Ouais, c'est comme Sodome et Gomorre, c'est la même chose. Mon cœur en moi est bouleversé. Né et par. Ma perhatsdom, né et par. C'est le cœur de Dieu qui est bouleversé. Et alors, dans Ézéchiel, cette région la plus basse, la plus pécheresse, la plus lugubre du monde, eh bien, viendra un moment où elle sera ressuscitée par une source qui sortira du temple de Jérusalem. Vous vous rappelez ce texte ? On va le lire, il est... Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire entre les paysages de ce pays, la géographie, la géologie, et puis certains textes bibliques. C'est le chapitre 47 d'Ézéchiel. J'ai fait allusion à Jérusalem. Rappelez-vous le tout premier paysage qu'on a vu au départ. Et alors, on a parlé d'un fleuve qui ressusciterait la mer morte. Eh bien, ce fleuve, il arrive par ici. Il me ramena à l'entrée du temple. Et voici que de l'eau sortait de dessous le seuil du temple vers l'Orient, car le temple était tourné vers l'Orient. À Jérusalem, devant le palais des Nations Unies, là, on a été jusqu'à un endroit d'où on voyait le désert et on devinait la surface de la mer morte que nous avons maintenant devant les yeux. L'eau descendait de dessous le côté droit de l'épaule droit, Kétef, du temple au sud de l'autel. Il me fit sortir par le porche septentrional, il me fit faire le tour extérieur jusqu'au porche extérieur qui regarde l'Orient, et voici que l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient avec le cordeau qu'il avait en main et mesura 1000 coudées. Alors il me fit traverser le cours d'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il en mesura encore 1000 et me fit traverser le cours d'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il en mesura encore 1000 et me fit traverser le cours d'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000 et c'était un torrent que je ne pus traverser car l'eau avait grossi pour devenir une eau profonde, un fleuve infranchissable. Alors il me dit, as-tu vu, fils d'homme ? Il me conduisit puis me ramena au bord du torrent. Et lorsque je revins, voici qu'au bord du torrent, il y avait une quantité d'arbres de chaque côté. Regardez le paysage, c'est difficile à imaginer. Il me dit, cette eau s'en va vers le district oriental. Elle descend dans la Araba et se dirige vers cette mer morte, cette mer salée. Elle se déverse dans la mer morte en sorte que ses eaux deviennent vives. Partout où passera le torrent, tout être vivant qui fourmille vivra. Alors ici, c'est un langage qui sonne comme le langage du premier chapitre de la Genèse. Quand on a pris l'habitude d'écouter la Bible en hébreu, on ne peut pas ne pas être projeté vers le premier chapitre de la Genèse et ça évoque une nouvelle création. Le poisson sera très abondant car là où cette eau pénètre, elle vivifie et la vie se développe partout où va le torrent. Sur le rivage, il y aura des pêcheurs, depuis Engedi jusqu'à Eglaïm, les filets seront tendus, les poissons seront de même espèce que les poissons de la grande mer. Et au bord du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, dont le feuillage ne se flétrira pas, dont les fruits ne cesseront pas. Ils produiront chaque mois des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Et pour moi, chrétien, je ne sais pas si je fais trop vite, mais je ne peux pas penser que cette région bouleversée, c'est le cœur de Dieu qui est bouleversé devant le comportement moral. Le cœur de Dieu qui est bouleversé pour nous, quand on regarde le crucifix, le côté transpercé, eh bien c'est le cœur de Dieu qui est vraiment bouleversé là. Et de ce cœur de Dieu transpercé, cette source, plus réelle encore que celle d'Ézéchiel, le signifié plus réel que le signifiant. Vous vous rappelez cette phrase de la liturgie, là, les vieux comme moi, on se le sait encore par cœur en latin, « Sanguis undar profluit terra pontus astra mundus colavantur flumine ». Pas du sang et de l'eau sont sortis du temple au plein sens du mot, qui est le Christ en croix, de son côté ouvert, et... ce fleuve est capable de ressusciter non seulement cette région que nous contemplons, mais le monde entier, le cosmos tout entier. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Vous rappelez cette phrase de l'Épître aux Romains. Vous voyez, ce qui est formidable quand on parcourt ce pays, c'est que nos convictions théologiques, spirituelles, les plus hautes, s'enracinent pas dans la géographie, dans l'histoire, dans la géographie, ce que dans la géologie de cette terre sainte. Encore une fois, on dirait qu'elle est là, qu'elle est faite pour qu'on retrouve le message de salut, pour qu'il se répercute de nouveau au monde entier. Les voies de Dieu sont les mêmes, et si la bonne nouvelle est partie de Jérusalem, où tout se concentre pour éclater aux dimensions du monde, c'est comme ça que ça s'est fait à la Pentecôte, et bien c'est comme ça que ça s'est fait aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement d'une nouvelle chrétienté, il s'agit d'une révélation qui est destinée à éclater aux quatre coins du monde. Ici, on est dans un balcon qui domine admirablement la partie sud de la mer Morte, et on voit dans son entier cette entité géographique tout à fait sui generis de la montagne de Sodome, tout à fait séparée de la falaise calcaire où nous sommes revenus. Et on la voit d'un bout à l'autre. On peut expliquer géologiquement comment ça s'est formé. Chaque fois qu'il pleut sur la hauteur, et vous savez qu'il pleut dans ce pays autant qu'en Normandie, mais seulement à une certaine époque de l'année, entre la fête de Sukkot et la fête de Pâques, mais ça dégringole. Et alors toute cette eau descend dans la dépression de la mer Morte et entraîne des alluvions considérables. Les alluvions se déposent sur le sel, et puis là-dessus il y a des mouvements tectoniques, des soulèvements, et puis quand il y a un soulèvement, la croûte alluviale au-dessus se fendille. Alors quand de nouveau par la suite il y a des crues, quand l'eau arrive de nouveau avec les alluvions, l'eau s'infiltre dans les fentes et puis dissout le sel qui est en dessous, d'où la grotte que vous venez de quitter. Et vous avez vu là deux grandes cheminées impressionnantes de l'eau que l'eau a creusé verticalement
comme des draperies avec les cristaux de sel tout le long.
C'est impressionnant. C'est le paradis des spéléologues. On est obligé d'interdire beaucoup de ces explorations parce qu'il peut y avoir des éboulements, que sais-je. Mais quand même, on en a ouvert une de laquelle vous sortez. Vous vous rappelez encore cette grotte là, Arub Botaïm s'appelle. Arub Botaïm. Arub Bot, c'est les fenêtres dans le ciel là, par où les eaux du déluge se déversent. Il y en a deux, c'est un duel, Arub Botaïm. Bon, moi je ne peux pas parcourir ce pays Bible en main sans que les paysages me fassent surgir des récits bibliques. Et il y en a un qui n'est pas très édifiant, mais si on ne le lit pas, on risque de passer à côté de beaucoup de choses que saint Matthieu nous suggère dans ce fameux prologue. Pour vendredi prochain, disons le sixième jour de la semaine prochaine, aujourd'hui nous sommes le sixième jour de la première semaine, le sixième jour de la deuxième semaine à la BST, là, on relit le prologue de Matthieu qui est à la charnière de l'Ancien et du Nouveau Testament, dans les horizons de Bethléem. Et on rejoint du regard cette partie la plus basse du globe dans laquelle nous évoluons maintenant. Alors, les choses que nous ramassons maintenant, vous allez les comprendre, voir comment saint Matthieu, tirant son trésor des choses anciennes, des choses nouvelles, fait cette admirable charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament qui est son prologue, généalogie du Nazoréen. Alors, je vous lis ce récit pas édifiant. C'est près la Maaperat Sdom, lorsque Dieu renversa ces villes. Lot monta dans... Tiens, vous avez vu la femme de Lot qui s'est retournée. Dans la Bible, se retourner, c'est jamais bon. Et vous avez vu ce qui est arrivé, est devenu une statue de sel. Jésus dira aussi dans l'Évangile, celui qui met la main à la charrue, qui se retourne, n'est pas digne de moi. On ne se retourne vers le passé que pour aller de l'avant, jamais pour se complaire dans le passé, pour prendre un élan vers l'avenir. Alors, Lot n'a plus que ses deux filles, et il n'ose pas rester à Tsoar, où il avait obtenu de se réfugier. Il s'installa dans une grotte, lui et ses deux filles. L'élite à la cadette, notre père est vieux, et il n'y a pas d'homme dans le pays pour s'unir à nous à la manière de tout le monde. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui. Ainsi, de notre père, nous susciterons une descendance. Elles firent boire cette nuit-là du vin à leur père, et l'aîné vint s'étendre près de son père, qui n'eut conscience ni de son coucher, ni de son lever. Le matin, l'aîné dit à la cadette, la nuit dernière, j'ai couché avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui. Ainsi, de notre père, nous susciterons une descendance. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette s'étendit auprès de lui, qui n'eut conscience ni de son coucher, ni de son lever. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aîné donna naissance à un fils et l'appela Moab. Pas Mo, c'est Maïm, un euphémisme pour le sperme. Ab, c'est père. C'est l'ancêtre des Moabites, voyez, dont le territoire est là en face, les Moabites d'aujourd'hui. La cadette aussi donna naissance à un fils et elle l'appela Ben-Ami, c'est l'ancêtre des Bené-Amon d'aujourd'hui. Hein, nous avons suivi du regard la Madian, Edom, etc. Moab à partir du Nahal-Zéred, là nous l'avons encore devant nous. Et puis nous allons poursuivre, nous allons voir du regard ce qui est plus au nord, là-bas de l'autre côté. Et à l'origine des Moabites et des Ammonites. Il faut savoir ça, il faut connaître ça. Saint Matthieu termine le livre, fait allusion à une petite généalogie qui termine le livre de Ruth. Hein, ça pose une énorme question. Les Moabites, c'est des cousins, etc. Mais on récite, Saint Matthieu reprend une généalogie qui se trouve à la fin du livre de Ruth. Vous vous rappelez que Ruth est Moabite. Nous allons revenir là-dessus de façon plus approfondie lorsque nous parcourrons les horizons de Bethléem en lisant le prologue de Matthieu. Mais simplement, ces récits manqueraient si on ne les lisait pas maintenant dans leur contexte géographique, en parcourant le paysage où nous sommes. Et nous reviendrons encore une fois, nous retrouverons depuis la hauteur, là-bas, aux environs de Bethléem, ces paysages où nous évoluons maintenant. Alors nous ramassons tout ce qui va entrer dans cette extraordinaire mosaïque, cette composition extraordinaire de Saint Matthieu à la charnière de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui s'inclut entre les deux mots généalogie du Nazoréen. C'est très subtil et il faut ramasser tous les éléments, dont essayer de le rejoindre dans sa mentalité, voir à son école comment le bon scribe du Nouveau Testament tire de son trésor des choses anciennes, des choses nouvelles. Pour, c'est passionnant de le voir à la charnière de l'Ancien et du Nouveau Testament dans le premier chapitre du premier livre du Nouveau Testament. On viendra là.